Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la version intégrale d'Afrique 7 jours. Au menu du magazine L'Afro Presse, l'Afrique dans la presse allemande. Et c'est comme toujours avec Philippe Poyan qui a lu pour nous la presse allemande. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Alors quels sont les thèmes qui ont intéressé nos confrères et que vous avez retenus pour nous ?
Eh bien, j'ai retenu cette semaine un seul thème. Je parle du roi des rois d'Afrique, ou plutôt du trésor caché du roi des rois d'Afrique. Je veux dire, bien sûr, Muammar al-Kadhafi.
Une fois n'est pas coutume, un seul thème dans l'Afro Presse. Merci Philippe, restez à mes côtés, puisqu'on vous retrouve donc tout à l'heure après la rubrique Blogosphère. La rubrique Blogosphère est justement au programme d'Afrique 7 jours et nous ferons la connaissance d'une blogueuse ivoirienne. Elle s'appelle Orphélie Tamlas et elle est en ligne d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Orphélie Tamlas.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes la gagnante du prix du public francophone 2016 du concours international du web activisme des BOPS. Un concours, rappelons-le, organisé depuis 12 ans maintenant par la Deutsche Welle.
Oui, c'est bien cela.
Vous avez visiblement du succès puisqu'en 2014, vous aviez aussi été consacrée meilleure blogueuse de votre pays.
De mon pays, oui, la Côte d'Ivoire, en 2014. Et c'était vraiment un tremplin, c'est à partir de là que je me suis vraiment, vraiment donnée dans ce que je faisais. Et merci vraiment au Deutsche Welle pour ce prix aussi que j'ai pu gagner parce qu'il fallait vraiment donner l'opportunité pour qu'on puisse gagner un prix. Donc, c'est toujours dans la même lancée, voilà.
D'accord. Ne quittez pas Orphélie Tamlas et nous allons poursuivre cet entretien tout à l'heure et ce sera bien sûr dans la rubrique Blogosphère.
À tout à l'heure, oui. À tout à l'heure.
Après une interruption due aux contraintes financières et aux vacances judiciaires de Pâques, le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé a repris en début de semaine à La Haye aux Pays-Bas. Une procédure qui pourrait encore prendre du temps, comme l'explique Fadi El Abdallah. Il est le porte-parole de la CPI.
Il y aura encore pas mal d'autres témoins. En général, la présentation des moyens de preuve, que ce soit par le procureur ou par la défense, prend un certain nombre de mois. À la fin de la présentation des moyens de preuve, il y a un petit moment qui est donné aux représentants légaux des victimes, qui pourraient également appeler des témoins ou appeler des victimes pour partager leurs histoires personnelles, afin de permettre au juge une certaine compréhension de l'affaire et des préoccupations personnelles des victimes. Par la suite, il y a la présentation des moyens de preuve par la défense. Et ensuite, nous entrons dans la phase des délibérations et après, ce sera le jugement.
Le porte-parole de la Cour pénale internationale, Fadi El Abdallah, sachez que le procès de Simone Gbagbo a également repris cette semaine à Abidjan. Simone Gbagbo, l'épouse donc de Laurent Gbagbo, qui doit répondre des mêmes faits reprochés à son époux. De l'Afrique de l'Ouest, on met le cap sur l'Afrique centrale avec une escale en République centrafricaine. Désormais, les victimes des différents conflits survenus dans ce pays peuvent faire parler d'elles. La date du 11 mai leur est désormais dédiée et elle est baptisée cette journée « Journée nationale des victimes des conflits centrafricains ». C'était l'une des recommandations du Forum national de Bangui, tenu du 4 au 11 mai 2015. Francine Demandé est la présidente de l'Association des victimes des événements de mars 2013. C'était dans le 4e arrondissement de Bangui.
C'est un moment pour porter nos voix parce que depuis, après les crises, là, nous les victimes, nous sommes oubliés. Je prends l'exemple sur moi. J'ai mis au monde des enfants, je les ai élevés et puis à l'âge de 21 ans, 19 ans, j'ai perdu subitement mes deux enfants. Tu penses que nos enfants sont nos avenirs. Si je deviens une vieille aujourd'hui, ce sont mes enfants qui vont prendre soin de moi. Et si on ne me dit pas quelque chose, on ne me fait pas quelque chose qui peut m'apaisantir, d'oublier ce que j'ai vécu là. Mais comment la paix peut être durable? À travers cette journée-là, nous demandons au gouvernement de se souvenir des victimes parce que nous, les victimes, nous constituons vraiment un point focal pour la reconstruction de la paix dans notre pays. Nous voulons ce que la réparation soit faite. La réparation surtout, la justice. Et comme ça, il y aura vraiment la paix durable.
Voilà, Francine Ndemandé, la présidente de l'Association des victimes des événements de mars 2013 dans le 4e arrondissement de Bangui. Et ses propos ont été recueillis dans la capitale centrafricaine par notre correspondant Jeff Murphy Barès. Nous restons dans la région pour atterrir maintenant au Burundi. Le Burundi où le président Pierre Nkurunziza s'est exprimé lundi sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, par rapport aux crimes commis dans son pays. Une sortie qui a surpris de nombreux observateurs de la vie politique burundaise. Qu'est-ce qui justifie donc cette sortie du président burundais sur Twitter? Voici ce que nous disait mercredi André Guichawa, spécialiste de la région des Grands Lacs.
Aujourd'hui, il estime important de s'engager personnellement et certainement un signe, à savoir que les réponses fournies par ceux qui habituellement font ce travail ne sont pas forcément considérées comme suffisantes ou véritablement représentatives. Il y a peut-être à ce niveau la nécessité d'apparaître comme étant véritablement le seul décideur ayant une vision, ayant une stratégie, ayant des objectifs.
Voilà, c'était l'analyse d'André Guichawa, spécialiste de la région des Grands Lacs. Vous écoutez toujours Afrique 7 jours et c'est bien sûr sur les antennes de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande qui émet depuis nos studios de Bonn en Allemagne. On se rend dans un instant à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, pour y retrouver notre invité et ce sera juste après cet intermède.
Blogosphère.
Voilà, comme promis, nous retrouvons en ligne d'Abidjan notre invitée Orphélie Talmas. Rebonsoir, madame.
Bonjour, rebonsoir plutôt. Décalage horaire.
Voilà. Et donc, vous nous faisiez état tout à l'heure de votre reconnaissance à la Deutsche Welle pour avoir été consacrée cette année meilleure. En fait, vous avez été gagnante du prix du public francophone 2016 de BOPS, qui est le concours international du web activisme, concours organisé par la Deutsche Welle. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à concourir?
Le besoin, en fait, de me rendre visible à l'international, parce que je me suis rendu compte en me documentant, parce qu'avant de m'inscrire, je me suis un peu documentée pour savoir de quoi il s'agissait. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient à leur deuxième édition, donc ça veut dire que c'est un concours sérieux et qu'il y a plusieurs pays qui y participent. Donc pour moi, c'était une façon de me rendre visible, de pouvoir entrer en contact aussi avec d'autres blogueurs, d'autres pays, pour pourquoi pas des partenariats, des collaborations, tout est possible. Donc vraiment, c'était l'idée de rencontre et de visibilité.
Ouais. Avant donc cette consécration faite par la Deutsche Welle, je le disais également tout à l'heure, vous avez été, meilleure blogueuse, nominée meilleure blogueuse de Côte d'Ivoire en 2014. Alors... Oui. Est-ce que vous pensez que le blogging, ça sert finalement à quelque chose après toutes ces consécrations?
Oui, je pense vraiment que ça a une portée. Quand je prends l'exemple de mon blog,
dans mon pays, de plus en plus, on n'est pas beaucoup de blogueurs culturels, malheureusement, parce que certaines personnes ne prennent pas la culture au sérieux. Mais je constate que de plus en plus, il y a des blogueurs culturels qui arrivent, qui sont pris en compte dans la communication des galeries d'art, des centres culturels, parce qu'on se rend compte qu'ils ont un vrai impact en termes de communication, qui ramènent du monde, qui ramènent des gens qui s'intéressent à l'art, qui ont envie de payer ou qui ont envie même de devenir des artistes. Donc moi, je pense que le blogging joue un rôle important pour l'opinion publique. Les blogueurs sont des influenceurs de l'opinion publique. Donc, on peut vraiment changer les choses. On peut même créer des révolutions, autant culturelles que politiques.
Oui.
Je pense que ça a une portée.
Oui. Et vous, vous ne faites que dans le domaine de la culture, hein. Et pourquoi
oui.
ne pas
les arts et la culture.
Voilà. Et pourquoi ne pas s'intéresser également à la politique, au fait des sociétés ou à l'économie?
C'est un choix. Je pense qu'il y a des blogueurs qui choisissent de parler que de politique et ils ne parleront pas d'art ou de culture. C'est un choix. Tu choisis une ligne éditoriale, tu t'y tiens et tu décides de faire la promotion du domaine que tu as choisi. Je pense qu'il y a aussi déjà beaucoup de personnes qui parlent déjà de politique en Afrique. On a déjà beaucoup de plateformes qui en parlent. Pourquoi pas la culture? Surtout qu'elle est très riche et qu'elle a besoin d'être de plus en plus mise en avant, en dehors même des frontières africaines.
D'accord. Et est-ce que les Ivoiriens s'intéressent beaucoup aux arts et à la culture?
Oui, mais plutôt la culture urbaine, comme à peu près dans tous les pays, hein, la culture urbaine. Moi, j'essaie de me pencher vers un autre type de culture qui n'est pas vraiment consommée en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment les arts visuels, les arts plastiques, autrement dit, la littérature. Ce genre d'aspects qui ne sont pas vraiment mis en avant dans la communication classique en Côte d'Ivoire. Donc, je fais référence à nos chaînes nationales, je fais référence à nos journaux nationaux qui ne mettent pas vraiment en avant la culture. Quand vous allez dans une rédaction, vous ne trouverez pas un journaliste spécialisé culture. À peu près tous les journalistes se permettent de couvrir des événements culturels ou de parler d'une exposition d'art. La culture n'a pas sa place, n'a pas la place qu'elle mérite, alors qu'elle fait partie de notre environnement, du matin au soir. Donc, l'Ivoirien, non, ne s'y intéresse pas vraiment sous l'aspect que moi, je développe. C'est plus la culture urbaine, le coupé-décalé. Je pense que vous connaissez le coupé-décalé.
Oui, le coupé-décalé, en effet.
Le coupé-décalé, oui, voilà, qui est très urbain. Voilà. Il ne va pas chercher à écouter un autre type de musique, peut-être un peu plus traditionnelle, un peu plus recherchée. Voilà. Donc
d'accord.
Moi, j'essaie de faire découvrir des choses qui ne sont pas connues. Voilà.
D'accord. Tout à l'heure, hein, avant le début de cette émission, vous me disiez que vous aviez, vous avez un master 2 hein, en droit international, hein, c'est ça?
C'est cela, oui.
Oui, et est-ce que ce n'est pas assez compliqué d'allier vos activités professionnelles avec ce que vous faites, en fait, le blogging?
Déjà, aujourd'hui, au stade où je suis, j'ai fait un virage à 360 degrés. Je dirais que c'est sûrement imposé à moi parce que j'exerce en tant que digital manager pour un média audiovisuel, en dehors même de mon blog. Donc, je ne travaille même pas dans le droit international à ce jour. C'est venu, j'ai eu ce travail en plus parce que je bloguais. Donc, j'ai été repérée parce que mon blog avait paru intéressant pour l'employeur. Donc, il s'est dit que j'étais capable de m'occuper de sa stratégie digitale. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mon travail. Et je pense que sur le marché de l'emploi, au bout d'un moment, il faut être polyvalent.
Ouais.
En dehors même de ta formation,
il faut être pragmatique. Hein.
Au jour le jour. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié le droit international. J'y suis toujours attachée. Je serai capable de travailler dans des domaines, dans l'humanitaire, parce que c'est ce que je vis de façon bénévole ou peut-être même être débauchée, je ne sais pas.
Oui.
Mais pour l'heure, je suis vraiment dans le digital. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup, Orphélie Talmas. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler votre blog
Rythme d'Afrique. Et pour s'y rendre, c'est rythmeafrique.com. R-Y-T-H-M comme rythme et Afrique collée. A-F-R-I-Q.
D'accord.
Oui. Donc, après, si vous ne retrouvez pas, vous allez juste sur mon profil Facebook Orphélie Talmas et puis c'est ouvert. Quoi.
D'accord. Je rappelle que votre blog traite de la scène artistique et culturelle africaine.
En
Afrique, voilà. Et vous diffusez également, je crois, des articles, des vidéos et des photos. Hein.
C'est ça, je fais un peu de tout.
D'accord, ok. Vous aimez quel genre de musique, Orphélie?
Je suis plus
plutôt public jeune parce que ma façon d'écrire est assez légère, je vais dire. L'art, chez moi, en Côte d'Ivoire, on considère que c'est un truc de personne richard, un peu snob. On pense que c'est de gros mots tout pompeux qu'on utilise pour en parler. Donc, comme moi, je veux viser un public jeune en me disant que c'est ces jeunes-là qui seront demain les adultes et qui vont payer, qui vont faire notre société. J'essaie de parler avec de la légèreté, avec de la sympathie. J'utilise beaucoup le pronom « je ».
Oui.
J'essaie vraiment de faire de telle sorte que le lecteur s'identifie à la personne qui a écrit l'article.
Mm-hmm.
Mais vraiment, j'y mets beaucoup d'humilité et d'amitié, quoi.
Ouais. Et si on vous demandait quel titre on peut peut-être jouer en votre honneur, ce serait lequel?
Richard Bonnard, Lokwa Kanza. La world music africaine.
La world music africaine, d'accord. Bien, on va effectivement prendre en compte cette demande. Et puis, voilà, un extrait de Lokwa Kanza.
Merci.
Bonne soirée et à bientôt.
Merci, merci et bonne soirée, merci.
Ray On, un duo de Lokwa Kanza et Papa Wemba que nous dédions à Orphélie Tamlas, notre blogueuse donc, qui était tout à l'heure en ligne d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le bonsoir Philippe Poyan.
Bonsoir Eric.
Parmi les thèmes africains commentés dans les journaux allemands cette semaine, vous l'avez dit, c'est un seul thème qui a retenu votre attention et il concerne celui qui se faisait appeler le roi des rois d'Afrique ou bien plutôt du dirigeant des dirigeants arabes ou encore l'imam de tous les musulmans. Il s'agit bien sûr du Libyen Muammar al-Gaddafi et plus précisément de ce qu'il est advenu de son immense fortune, Philippe.
Oui, dans un article intitulé « La chasse au trésor perdu », la Süddeutsche Zeitung essaie de suivre les traces des fonds énormes dont disposait le dictateur libyen. Le 20 octobre 2011, des rebelles avaient extirpé d'une canalisation où il s'était terré celui qui, jusque-là, était l'homme tout-puissant du pays. Quelques heures plus tard, Kadhafi était mort. Mais quelques semaines auparavant, le dictateur avait vendu un cinquième des réserves d'or libyennes. Une grande partie de ces fonds reste introuvable jusqu'à ce jour. La récente divulgation des Panama Papers et des constructions financières dans les paradis fiscaux offshore pourrait mener à la découverte d'une partie de ces fonds. Dès la chute du roi de Libye, c'était en 1969, Kadhafi avait alors commencé à amasser sa fortune et mis en place un réseau de comptes secrets et de discrètes participations à de grandes entreprises. Le pétrole avait fait la richesse de la Libye et celle du colonel Kadhafi. On estime la fortune personnelle du roi des rois à une somme se situant entre 100 et 200 milliards de dollars.
Et Philippe, des dizaines d'enquêtes sont menées de par le monde pour retrouver une partie de cette montagne d'argent.
C'est exact. Et entre-temps, quelques centaines de millions ont été retrouvés en Italie, en Allemagne et aux États-Unis. Mais pourtant, la plus grande partie des trésors cachés reste encore introuvable. Dans ses investigations, la Süddeutsche Zeitung a obtenu des documents de ses informateurs qui révèlent des traces menant à deux hommes de confiance de Kadhafi. L'un, Ali Dabaiba, a amassé des milliards grâce à des commandes de l'État libyen. L'autre, Bachir Saleh Bachir, surnommé le banquier de Kadhafi, cache sans doute jusqu'à aujourd'hui des dizaines de milliards au profit du clan Kadhafi.
Et Philippe, Ali Dabaiba, n'est-ce pas, c'était lui le président de la société étatique géante ODAC, une société chargée d'attribuer les commandes de grands travaux de l'État.
En effet, et selon les enquêteurs, une grande partie de ces commandes était attribuée par des voies détournées à des parents et des proches de Dabaiba. Lorsque la fin du régime de Kadhafi s'est profilée, Ali Dabaiba a retourné sa veste et il a soutenu financièrement les rebelles dans sa ville de Misrata. Ses comptes personnels ont tout de même été gelés par le nouveau gouvernement. Il s'est exilé à Londres, où sa famille possède de gros biens immobiliers. Et les enquêteurs ont entre-temps découvert une centaine de sociétés dans lesquelles il serait impliqué à Malte, sur les îles Vierges, au Liechtenstein ou même encore en Grande-Bretagne. Et puis, pendant les troubles de la guerre civile, Bachir Saleh Bachir avait, lui, pu sortir de Libye et se réfugier au Niger. Une société offshore du nom de Vision Oil Services était apparemment le secret du banquier de Kadhafi. Comme le montrent les Panama Papers, la firme étatique Libya Africa Investment Portfolio possédait une majorité d'actions de Vision Oil Services avec des ramifications en Suisse, au Luxembourg et à Singapour. Bachir a été aperçu plusieurs fois en Afrique du Sud, mais selon certaines rumeurs, il vivrait aujourd'hui au Swaziland.
Affaire à suivre donc. Merci Philippe Poyen pour l'Afropresse qui a un seul thème aujourd'hui. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine.
La même chose pour vous et à tous nos auditeurs. Au revoir.
Au revoir. Et c'est avec l'Afropresse, hein, avec Philippe Poyen, que s'achève Afrique 7 jours de ce dimanche 15 mai 2016. C'était Eric Topona à la présentation et je vous quitte sur cette pensée du philosophe Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. Leo pakani mawazo.